La motte Langon, la damnation éternelle. Dans un château voisin de Pavie, en tournant vers la Lunigiane, petit pays à l'est de la rivière de la Magra, vivait au commencement du XVIIe siècle une noble famille issue des illustres comtes Guido Guidi, dont elle portait le nom bien qu'elle en fût distincte depuis un temps immémorial. Cette famille était d'ailleurs célèbre par une destinée funeste attachée à chacun de ses membres, dont aucun, quel que fût le sexe ou l'âge, ne terminait sa vie d'une mort naturelle. Les uns, voués aux éléments matériels, périssaient par le fer, le feu, les eaux, par des commotions de la nature, par la chute d'édifices ou de corps durs. Les autres, condamnés à se détruire eux-mêmes ou à périr de la main des hommes, se suicidaient ou mouraient par le poignard ou le poison. Du reste, aucune époque n'était réglée pour le terme de leur existence. C'était une loi terrible, inexorable, mais qui frappait avec la même irrégularité que le trépas ordinaire. Cela ne laissait pas que de faire impression sur les personnes de cette famille. On cherchait à s'expliquer la cause d'un pareil châtiment. Certains voyaient la punition d'une apostasie, d'un sacrilège commis à une époque reculée, et l'exécution éternelle d'une excommunication lancée par le pape, vengeur de la chair de Saint-Pierre outragé. D'autres prétendaient qu'un crime horrible, accompagné d'un inceste, appelait cette malédiction du ciel. Bref, ce mystère était d'autant plus voilé que la famille Guido Guidi se taisait elle-même et que, dans ses archives, on ne trouvait rien qui pût appuyer une des mille conjectures que l'on formait chaque jour. Au commencement du XVIIe siècle, ai-je dit, et dans le château principal de Rinaldo Guidi, chef du nom et des armes de cette antique maison, existait, parmi les enfants du même père, une vierge aussi vertueuse que belle, aussi brillante de jeunesse que d'esprit, consacrée dès le jour de sa naissance au culte de la Mère de Dieu. Elle se montrait toujours vêtue de blanc, et les seuls ornements qu'elle ajoutait à la simplicité de cette parure étaient des bluets, des iris, des églantines. En un mot, des fleurs bleues, dont parfois elle tressait des couronnes pour emparer son front. Sa mère l'avait destinée à entrer dans un monastère. Mais elle mourut lorsqu'Annunziata Guidi était encore en bas âge. Et son projet n'avait pu être accompli. Plus tard, le père de cette créature céleste l'aima avec une telle tendresse qu'il ne put consentir à avoir tant de perfection ensevelie dans un cloître. Il ne se croyait pas obligé, d'ailleurs, d'exécuter un vœu fait par sa femme sans qu'il eût donné son consentement. Annunziata grandissait en beauté et en grâce. Le bruit de ses charmes se répandit au loin. Il n'était pas un gentilhomme des Hautes Italies qui ne chercha à la voir et qui, l'ayant vue, ne forma le dessein de lui plaire. Déjà, plusieurs parties s'étaient présentées de Milan, de la Lombardie, de Gênes et de la Toscane. Mais son heure d'aimer n'était pas venue. Le comte Guidi, peu disposé à se séparer de sa fille chérie, ne la pressait pas de faire un choix. Il attendait qu'elle se décidât en faveur de l'un des nombreux prétendants à sa main. Cependant, Luigi Donia Doria, l'un des descendants de cette maison génoise si fameuse dans l'histoire, avait produit sur l'âme naïve et pure de la jeune fille une profonde impression. Il y avait en lui, il est vrai, tout ce qui pouvait justifier cette préférence. Il était beau, gracieux, vaillant et plein d'honneur. Sa libéralité, sa franchise, ses connaissances, l'éclat qui rejaillissait sur lui de la gloire qu'il avait obtenu dans les dernières guerres, le faisait distinguer parmi ses rivaux. Le voir sans l'aimer semblait difficile. Annunziata ne réprouva que trop. Elle céda insensiblement à cet attrait qui enivre une âme tendre. Elle connut l'amour, d'abord comme un doux rêve de l'âme, puis avec toutes les émotions violentes qui nous suivent dans la vieille comme dans le sommeil. Mais déjà un remords naissait en elle. La belle Italienne savait que, dévouée au culte de Marie, c'était une profanation que de s'en éloigner. Le vœu maternel pesait sur elle, ce vœu dont sa mère avait cru faire une protection céleste, tombait sur Annunziata comme une malédiction. Une autre pensée la tourmentait encore, celle qu'elle était destinée à périr d'une mort violente et que peut-être elle porterait la même destinée à la postérité de son époux. C'était plus qu'il en fallait pour la plonger dans une mélancolie profonde, pour troubler la sérénité de sa vie. D'affreuses visions venaient ajouter à sa tristesse. Elle lui retraçait sans cesse les scènes sanglantes dont sa maison avait été frappée. Elle lui montrait dans l'avenir de nouvelles séries de malheurs pour ceux qui portaient le nom de Guidi. En vain, auprès de Luigi, Doria cherchait-elle un refuge contre les fantômes de son imagination. En vain, par un redoublement de prières et de bonnes œuvres, essayait-elle de désarmer le ciel. La religion, comme l'amour, n'avait que des menaces pour son cœur. Au milieu de ce conflit de sensations diverses, et dans le tourbillon des fêtes, des enchantements de tout genre, elle voyait toujours la fatalité inhérente à sa race, s'offrant à elle comme un spectre impitoyable. Un soir, seul dans les jardins du château du comte Guidi, tandis que ses frères et son amant chassaient dans la forêt voisine, Annunziata s'assit sous un berceau en fleurs. Là, elle s'abandonnait à une douloureuse rêverie, lorsque, de la profondeur d'un bois d'oranger, de myrte, de laurier et de grenadier, qui balançaient leurs rameaux odoriférants au souffle d'une brise embaumée, elle vit venir une femme vêtue d'un costume singulier, et dont la forme était celle que portaient au XVe siècle les personnes de haute condition. C'était une longue robe de velours rouge brochée de fleurs d'or, avec une bande de gros de Naples, bariolée des couleurs les plus vives. Ce costume était relevé par des ceintures, des carcans, des bracelets, des claviers et des ornements d'orfèvrerie massive, travaillés à jour, émaillés et chargés de pierreries qui étincelaient aux derniers rayons du soleil couchant. Cet inconnu, dont les cheveux noirs étaient crêpés en deux grosses touffes pendantes sur les oreilles et le long des joues, portait une coiffure d'or ciselée en forme de diadème, du sommet de laquelle tombait un voile de fine laine, magnifiquement brodé et assez épais pour dérober ses traits. Un pas lent et solennel, la roideur d'une taille emprisonnée et dans de fortes baleines, ajoutait à la bizarrerie de cette apparition. À mesure que l'étrangère s'approchait, la signora Guidi s'étonnait de ne pas lui trouver quelque chose d'étrange sous ce costume, si peu en rapport avec le temps où elle vivait. Une pensée confuse lui disait qu'elle ne la voyait pas pour la première fois, et en effet, elle se rappela que ce costume était celui d'une comtesse Guidi, l'une de ses aïeules qui vivait au milieu du XVe siècle et dont le portrait figurait dans la grande salle du château. C'était le même choix d'étoffes, les mêmes bijoux, la même coupe de robe. Tout offrait à sa mémoire l'original du portrait. Or, le visage couvert du voile mystérieux. Cette ressemblance extraordinaire troubla Annunziata et lui inspira une terreur qui ne pouvait échapper à l'inconnu. Celle-ci continuait à marcher d'un pas grave, tandis que le soleil commençait à descendre derrière les montagnes alpines et que les ombres de la nuit couvraient déjà la profondeur des vallées. C'était le moment qui jette sur tous les objets une clarté indécise et mystérieuse, où les troncs des arbres flétris s'élèvent comme des spectres gigantesques, où les rochers apparaissent sous les formes menaçantes, et où souvent l'imagination, avec une simple touffe de genêt, crée l'apparence d'un malin démon des bois. Annunziata aurait voulu pour tout au monde être dans le château de son père, sous la protection de ses nombreux serviteurs, ou mieux encore, sous celle de la vaillante épée de son noble amant. Mais elle était seule, et se confiant en sa simple innocence, elle se leva et attendit ce qu'elle allait advenir d'une visite aussi extraordinaire. L'inconnu atteignit enfin le berceau de verdure. Plusieurs sièges de marbre de gazon la garnissaient. Elle s'assit en silence sur l'un d'eux et, faisant un geste comme pour inviter la signorina à imiter son exemple, elle prit enfin la parole. « Je vous fais peur, » dit-elle. « J'ignore qui vous êtes, madame, » répondit Annunziata. « Oh, qui je suis ? La terre peut à peine le dire. » car mon nom est mort dans le souvenir de tous ceux qui existent. Le bronze même de mon mausolée n'emporte plus que des traces illisibles. » À cette déclaration précise qui annonçait une créature de l'autre monde, un vif effroi s'empara de la jeune fille qui fut sur le point de s'évanouir. Elle se laissa tomber sur un banc où elle resta glacée et immobile. L'inconnu la contempla quelque temps à travers les plis de son voile avec une complète indifférence. Puis elle poursuivit. « Je suis la comtesse Ottavia Guidi. »« Vous, madame ?» dit faiblement Annunziata. « Oui, moi, cela vous étonne. Cependant, les choses étranges qui... le temps immémorial se passe dans notre famille, doit vous inspirer autant d'effroi. Que vous semble par exemple cette perpétuité de mort fatale, de cette destinée attachée à tous ceux qui portent notre nom, de terminer leur carrière par une sanglante catastrophe? Avez-vous réfléchi sérieusement sur une pareille malédiction? Mais j'y songe sans relâche, expliqua Annunziata avec un redoublement de terreur. « Mais encore, si la cause était connue !»« Gardez-vous de la prendre, vous n'en souteriez après le récit. Ce secret foudroierait celui qui serait assez téméraire pour remonter à sa source. Mais il est un autre vœu à former, c'est de découvrir le moyen de briser cette fatalité et de faire rentrer la famille des Guidi dans le cercle de la vie ordinaire. » Et ce moyen existe, poursuivit le fantôme d'un ton plus sépulcral. Il existe, s'écria la signorina. Il existe et vous venez pour me l'apprendre, pour que je puisse le révéler à mes parents? Oh non, le réveiller serait inutile. Nul d'entre eux ne voudrait l'employer. Il faut pour cela une âme d'une trempe comme on en rencontre guère. Car il y a là-dedans un sacrifice à consommer, tel que jamais dans ce monde on en a exigé de semblable. Désirez-vous encore le connaître ? Ajouta le spectre avec une sorte de malignité. Oui, si je puis l'accomplir, dit énergiquement la jeune fille. Mais non, s'il ne satisfait que ma curiosité. Il est au pouvoir de tous ceux de ma race de délivrer leurs descendants. Et néanmoins, aucun n'a voulu en prendre le soin, tant il y a d'égoïsme sur la terre. » Et un éclat de rire telle qu'Annunziata n'en avait jamais entendue, sortit de dessous la voile de la comtesse défunte. Après un intervalle de sombre silence, la jeune fille, vivement émue, craignant d'ailleurs qu'on ne voulût abuser de sa crédulité, car il lui était encore impossible de croire à la réalité de l'apparition, dit alors « Mais qui m'assure que vous savez ce grand secret et que vous êtes vraiment ce que vous prétendez être ? J'aime ce doute, il ne m'offense point, et me prouve au contraire que ce serait pour vous peut-être qui mettrait fin à la double perte que les vôtres subissent tous. » Laquelle ? Mais de mourir de mort violente, d'abord, puis d'être privé du repos de la tombe. Annunziata frémit. Le fantôme poursuivit. Oui, tous vos parents errent le jour et la nuit alentour de leur antique demeure. Ce sont leurs tristes plaintes qu'on prend parfois pour des gémissements de la brise. Ils souffrent d'un supplice que vous ne pouvez comprendre. Ils sont tous successivement implorés la pitié d'un des membres vivants de leur famille et tous ont été impitoyablement repoussés. Eh bien, montrez-moi vos traits et faites-moi connaître ce sacrifice. Vous serez satisfaite, ma fille. » Et le voile écarté tomba sur le côté. Annunziata vit avec une terreur sans égale, non un visage humain, mais celui de la comtesse Ottavia dont elle avait contemplé le portrait une heure auparavant dans la grande salle du château. C'était sa maigre taille, ses traits immobiles et aplatis, malgré l'ombre factice qui les élevait dans le cadre. Des yeux expressifs et sans mouvement, des joues sans feu, des lèvres qui restaient plissées et immobiles, d'où sortaient les paroles. En un mot, c'était la vision la plus épouvantable que les regards d'un être vivant puissent soutenir. La comtesse Ottavia, après quelques minutes, replaça lentement son voile, et la jeune fille se sentit soulagée quand il ne vit plus que ce riche costume qui lui cachait d'un corps de fantôme. La comtesse sembla se recueillir, puis elle ajouta « Une faute terrible, un crime qui passe toute croyance et dont la peine retombe sur toute la race du coupable, vous a tous livrés à l'esprit du mensonge et pèse sur eux depuis le tour de leur naissance jusqu'à celui du dernier jugement, jusqu'à ce jour dont l'éternité sera le lendemain. Et pour rompre ce charme funeste, il faut qu'un Guidi se dévoue pour toute notre postérité. » Volontairement une damnation éternelle. » Annunziata, poussant un cri d'horreur, se leva avec vivacité de son siège, où elle retomba soudain. La comtesse se leva aussi, mais pour disparaître, sans laisser d'autre vestige de sa venue que la noire empreinte du gazon, sur lequel avait glissé ses pas comme si un feu ardent l'eût dévoré. Une obscurité complète s'était étendue sur la terre et la jeune Guidi était encore à la même place. Cependant, elle entendait les fanfares joyeuses des chasseurs qui revenaient de la forêt. Son père, ses frères, Luigi Gioria, attendaient qu'elle vînt les charmer de sa douce présence. Elle ne paraissait pas. On la chercha partout. On parcourut les jardins avec des flambeaux, et on appela à haute voix. Ce tumulte, cette clarté bienfaisante, la rappelèrent au sentiment de son existence. Elle se hâta de revenir vers la noble assemblée, qui l'entoura avec empressement. Oh, combien au milieu de tant d'allégresse, Annunziata éprouvait le désespoir lorsqu'elle songeait à la révélation qui lui avait été faite, et à quel prix on voulait vendre le repos de tous les membres de sa maison. Elle eut beaucoup à faire pour refouler sa sombre mélancolie au fond de son cœur. Et ce fut dans ces dispositions pénibles qu'elle arriva dans la salle où étaient suspendus les nombreux portraits de ses ancêtres. Le premier soin d'Annunziata en entrant dans cette salle fut de porter les yeux sur le cadre qui renfermait l'image de la comtesse Ottavia. Oh, nouvelle surprise! Non seulement elle y retrouva les traits et le costume du fantôme qui lui était apparu, mais encore elle remarqua un changement de position dans l'attitude du portrait. La tête, qui d'abord était vue de trois quarts, se trouvait maintenant de face, et sur ce point elle ne pouvait se tromper, car depuis quelque temps, ce portrait, objet de son attention particulière, était profondément gravé dans sa mémoire. Elle frémit de nouveau, et son espoir augmenta lorsque la bouche de la comtesse s'ouvrit, comme pour lui parler, et que ses regards dardèrent sur les siens un éclair de colère. Annunziata, toute tremblante, baissa les yeux et pâlit. Chacun s'empressa autour d'elle. On lui demanda la cause de son chagrin. Deux fois elle fut prête à le dire, et deux fois l'expression menaçante du visage de la comtesse Ottavia retint sur ses lèvres cet aveu. Luigi Doria, plus inquiet que les autres, supplia la signorina de parler, mais elle se montra inébranlable. Son amant allait redoubler ses stances lorsqu'il fut arrêté par une exclamation d'Alberto, le plus jeune des frères d'Annunziata. Cet adolescent entrait dans sa 15e année. Sa ressemblance avec sa sœur était parfaite, et une douce amitié les unissait tous les deux. Il venait de se placer vis-à-vis du portrait fatal, et il s'écriait que la comtesse Ottavia, fatiguée de garder la même posture depuis un si grand nombre d'années, en avait changé, et qu'à présent elle regardait directement sa descendance. On fit d'abord peu d'attention à cette remarque, mais peu à peu le reste de la famille et les habitants du château partagèrent son étonnement, car eux aussi voyaient trop souvent ce portrait pour ne pas s'apercevoir que la pose de la tête n'était plus la même. Ce prodige amena toutes sortes de commentaires, mais on se résuma à croire que quelqu'un, par malice, avait repeint le tableau. On voulut savoir qui avait fait là ce mauvais tour, et nul ne put en désigner l'auteur. Cependant, le chef de la maison, le vénérable comte Guidi, demeurait assis dans son grand fauteuil d'ébène, dont les sculptures étaient un chef-d'œuvre de Banco Bandinelli, et que garnissait un maroquin vert garni d'une frange d'or. L'immobilité de ce noble chef, ses mains dont il couvrait son front et les mouvements convulsifs qui survenaient dans tout son corps, appelèrent aussitôt l'attention. On le vit faire signe à Alberto de venir à lui. Il prit cet adolescent dans ses bras, l'inonda de ses larmes, et à travers une multitude de sanglots, « Mon fils !» s'écria-t-il d'une voix entrecoupée, « Mon cher, mon malheureux enfant, prépare-toi à mourir avant peu de la mort fatale qui frappe tous ceux de notre famille. » À ces terribles paroles, l'épouvante et la douleur se manifestèrent dans l'assemblée. Les frères et les sœurs d'Alberto poussèrent des cris de désespoir. Et ce désespoir fut à son comble lorsque le père infortuné eut ajouté que depuis l'époque où une malédiction pesait sur sa famille, celui qui le premier devait en être frappé recevait un avertissement du ciel par un moyen surnaturel. « Oh, je ne puis donc plus douter, » poursuivit-il, « que mon Alberto ne soit cette victime, puisqu'il a vu avant tout autre le changement de pose du portrait. C'était lui que menaçait la comtesse Ottavia. » Il termina en invitant son malheureux fils à se confesser sans délai et à remplir ses autres devoirs religieux. Cette exhortation faite par un père qui lui-même semblait sur le bord de la tombe, un jeune homme brillant de fraîcheur et de santé, eût touché profondément même des étrangers. Hélas, nul n'osait faire entendre des paroles d'espérance. Tant de preuves attestaient que de telles prédictions ne manquaient jamais de s'accomplir. Un morne silence régna dans la salle. Le moine Leandro, directeur de conscience des comtes Guidi, entraîna vers la chapelle du château le jeune Alberto. Ses parents et ses amis le suivirent afin d'aller réciter pour lui l'office des agonisants. Le comte Widdy lui-même voulut assister à cette triste cérémonie. Annunciata, seule, n'avait pu suivre la foule. Elle resta dans la grande salle, hors d'état d'agir et peut-être de penser. Une seule idée absorbait en elle toutes les autres, celle de la communication qui lui avait été faite du secret fatal et des moyens de sauver sa famille de la fausse destinée sous laquelle elle gémissait depuis si longtemps. Cependant, pour la sauver, devait-elle se rendre coupable du plus grand crime qu'on puisse commettre sur la terre, celui de compromettre le sceau de son âme, le salut de son âme? D'un autre côté, son tendre amour pour son père, son jeune frère et les autres membres de sa famille la mettaient dans une affreuse perplexité. Elle se demandait si, pour sauver tant de têtes qui lui étaient chères, il ne fallait pas tout immoler, hélas, et son amant comme les autres. Dans ce moment, le portrait, fixé à la muraille par 5 crampons de fer, s'agita violemment à diverses reprises. Puis il descendit, non comme par l'effet d'une chute, mais d'une manière lente et solennelle. Lorsqu'il eut atteint le plancher, l'effigie de la comtesse Octavia se détacha du fond de la toile et vint droit à la signorina. « Eh bien, ma fille, lui dit le spectre, que te semble de la douleur de tes parents? Ne feras-tu rien pour l'adoucir? Mais que Dieu me préserve de commettre un crime, fut la réponse d'Annunciata. Un crime, soit, mais il a son côté vertueux. Songe qu'en t'y abandonnant, tu donnes la paix du sépulcre à des ancêtres, et tu délivres leurs descendants de l'horrible trépas qui les menace tous. N'aurais-tu donc, toi aussi, aucune pitié pour eux? Aussitôt, la salle, quoique vaste, se remplit d'une foule nombreuse de spectres de tout âge et de tout sexe. C'étaient les Guidi trépassés. Tous se présentèrent à la malheureuse Annunciata avec leur mine avicade avéreuse. Des larmes brûlantes sortirent de leurs yeux éteints. Ils tendirent en suppliant leurs bras décharnés vers la jeune fille et semblèrent lui reprocher de sa curiosité envers eux. Et ce fut par l'effet d'une force surhumaine que la signorina contempla sans expirer cet effrayant spectacle. Mais l'usage de ses sens l'abandonna complètement. Lorsque, tournant la tête, elle reconnut sa mère chérie, dont elle avait tant pleuré la mort. Quand Annunciata revint à elle, elle se trouva dans son lit au milieu de ses sœurs, qui toutes fondaient en larmes. Bientôt, deux hommes se précipitèrent au milieu du groupe désolé, le comte Guidi et Luigi Doria. Ils lui prodiguèrent tous les témoignages de l'affection la plus vive et ne se calmèrent qu'en voyant que l'objet de leur sollicitude avait repris connaissance. Elle leur demanda, avec le cœur brisé, des nouvelles de son jeune frère. « Oh, il vit encore, lui fut-il répondu, mais il doit s'attendre à chaque instant à subir notre cruelle destinée. » Et le comte Guidi, rassuré sur sa fille, se livra de nouveau pour son fils à toutes les angoisses de la douleur d'un cœur paternel. Il y avait quelque chose de solennel et d'effrayant dans tout ce qui se passait cette nuit au château de Guidi. Les cloches de la chapelle et celles du monastère voisin sonnaient avec fracas l'agonie du jeune Alberto. Lui, plein de vie, voyait la mort prête à le saisir, sans savoir sous quel aspect lui apparaîtrait. Toutes les chimères qu'il s'était plu tant de fois à créer s'envolaient en quelque sorte une à une et ne laissaient derrière elles qu'un abîme menaçant qui déjà souffrait pour l'engloutir. Ses beaux yeux perdaient insensiblement leur éclat. Ses joues si brillantes devenaient ternes. C'était comme un essaim de décomposition que la mort faisait sur ce jeune et bel adolescent. Une bouche indiscrète vint révéler l'état du jeune Guidi à Annunciata. elle demanda deux fois à voir son frère. Mais, craignant les tristes conséquences qui pouvaient en résulter pour sa vive sensibilité, on s'opposa à son désir. On lui dit que son père pouvait se tromper dans son pronostic, qu'il était possible d'ailleurs que Dieu se laissât fléchir par les prières qui allaient être faites dans tous les monastères d'Italie, qu'on ne quitterait plus le jeune Guidi et qu'au moyen de cette vigilance, on détournerait de lui les dangers qui le menaçaient. Mais rien ne pouvait tranquilliser la signorina, et dans son angoisse, elle forma le désir de revoir la comtesse Ottavia. Aussitôt, les personnes qui l'entouraient furent plongées subitement dans un profond sommeil. Puis elle entendit, du côté de la porte, le frottement d'une robe de velours qui lui annonça que son vœu allait être satisfait. En effet, elle vit s'avancer lentement le fantôme qui, s'arrêtant devant son lit, lui dit d'une voix sépulcrale « Que me veux-tu ?»« Hélas, je l'ignore moi-même, » répondit la jeune fille en frissonnant. « Cependant, tu as souhaité ma présence. Au nom du ciel, sauvez mon pauvre frère. Et tu sais que toi seul peux le sauver. » Mais je me dévouerai aux flammes éternelles. Tu délivreras tous les tiens. Songez à la grandeur du sacrifice. Quoi, vous voulez que je consente à me séparer éternellement dans l'autre monde de ce que j'ai tant aimé dans celui-ci? Demain, tu pourras faire entendre tes plaintes sur le cercueil de ton frère. Et la vision s'approchait. Et la vision s'approchait. Annunciata, cédant à une sorte de délire causé par les dernières paroles de la comtesse Ottavia, conçut un instant la résolution de consommer le sacrifice qui lui était imposé. Cependant, elle frémit en pensant à la barrière éternelle qu'elle allait mettre entre elle et Dieu. Elle tâcha de le fléchir par ses prières, mais rien ne put calmer ses souffrances. Dans ce moment, un profond soupir, poussé près de son lit, la fit tressaillir de nouveau. Il y avait dans cette plainte inarticulée quelque chose qui n'appartenait pas à la terre. Ses yeux se portèrent alors vers le grand miroir de Venise, placé entre deux croisées, faisant face à son lit, et elle vit l'ombre de sa mère, qui paraissait plongée dans une profonde affliction, puis s'avançant vers elle. « Ma fille, lui dit-elle, je souffre, et ton frère va mourir. »« Et moi, répondit Annunciata d'une voix faible, dois-je donc me condamner à des tourments éternels ?»« Je souffre, répéta le fantôme, et ton frère va mourir. Mais s'il faut donner ma vie pour vous sauver tous, je vous l'abandonne avec joie, mais dois-je disposer de mon âme ?» « Je souffre et ton frère va mourir, » dit une troisième fois le fantôme, et il disparut. Au même instant, la porte s'ouvrit et le vieux comte Guidi entra. Sa physionomie était empreinte d'un sombre désespoir. Il s'approcha du lit de sa fille, d'une main lui montrant ses femmes endormies, et de l'autre lui fit signe de le suivre. La Vierge obéit, malgré sa faiblesse. Elle jeta sur elle une mante fourrée d'hermine. Puis elle accompagna son père, qui lui saisit le bras en silence, et la conduisit dans la grande salle éclairée de plusieurs torches en cire blanche. « Annunciata, lui dit-il, lorsqu'ils furent arrivés, une affreuse malédiction pèse sur nous. Il serait temps d'y mettre un terme. » Annunciata trembla et ne répondit rien. Il est un moyen de sauver notre famille, poursuivit le comte d'une voix creuse, mais ce moyen est terrible. Vous le connaissez donc, mon père, s'écria Annunciata prête à défaillir. Oui, mon enfant. Mais la question m'a été faite avec une inflexion de voix si particulière. Est-ce que tu saurais? « Oui, je sais que nous sommes tous bien punis d'une faute que nous n'avons pas commise. La postérité d'Adam est encore sous le poids de la haine, répondit le comte tristement. Et ce qui a lieu sur toute l'étendue du globe pour la descendance de l'aïeul, comme on peut bien être reporté pour ses membres d'une maison particulière. Mais as-tu appris, comme moi, à quel prix nous pouvons racheter les nôtres ? Le silence de la signorina et son trouble firent deviner au comte qu'il n'avait rien à lui apprendre. « Oh, je vois, ma fille, que cette fatale révélation t'a aussi été faite. Mais qu'en penses-tu ? Mais ah, pourquoi Dieu nous poursuit-il avec tant de rigueur ? Le murmure est une offense. Il y a 10 ans que dans cette même salle je fus instruit d'un secret qui depuis dévore mon cœur. C'était pendant une nuit d'orage. La foudre grondait dans les airs. Des torrents de pluie frappaient les murs de ce vaste édifice et les sifflements de l'Aquilon se mêlaient au mouvement du tonnerre. Je me levai et ça vint ici pour amener mon inquiétude. Et j'y étais depuis quelques instants, lorsqu'à la clarté de plusieurs éclairs successifs, je vis le portrait de mon quadrisaïeul, de Geronimo Guidi, se détacher de son cadre et s'approcher de moi. Oh, j'ai couru de grands dangers sur les champs de bataille, j'ai parcouru les mers sur de légers esquifs, lorsque les vagues en fureur se croisaient sur ma tête. Cependant, j'étais calme et impassible. Tandis que dans cette circonstance, mon sang se glaça, mes cheveux se hérissèrent, j'eus peur. Le spectre me regardait fixement. L'époux de la comtesse Ottavia Guidi me dit que je pouvais, au prix de ma dévotion éternelle, délivrer les membres de cette maison, morts, vivants et à naître. Je repoussais cette proposition avec horreur. Vous étiez encore si jeune que je pouvais espérer terminer mes jours avant vous. Votre mère périt écrasée par un arbre du parc. Et aujourd'hui, Alberto va le suivre. Et moi, son père, je puis le sauver. Écoutez, Annunciata, écoutez la terrible résolution de l'auteur de vos jours. C'est sans doute le plus grand sacrifice de l'amour paternel. Je vais vendre mon âme aux démons pour vous racheter tous. Oh, j'aurais dû le faire sans rien dire. Mais cet effort est au-dessus de mes forces. Il faut que j'emporte la triste constatation que mes descendants apprécieront l'étendue de ce sacrifice, qui me récompenseront par leurs regrets. Adieu, ma fille. Vous ne me verrez pas, votre père, dans le ciel. » Le comte Guidi se tut, son émotion l'empêchant de continuer. Annunciata, en proie à une cruelle angoisse, ne pouvait retenir ses sanglots. Le dessein de son père achevant de la désespérer, elle se disait que souffrir qu'il l'accomplit serait se rendre coupable d'un parricide sans exemple. Aussi elle s'écria avec force : Non, mon père, non, non! Vous ne nous immolerez pas pour notre maison. C'est à moi qu'est réservée cette tâche. Vous, ma fille, si jeune, si belle, si vertueuse, vous qui devez goûter sans remords toutes les douceurs de la vie, oh, jamais je n'y consentirai. Il est dans l'ordre qu'un père se sacrifie pour ses enfants. Et pourquoi les enfants ne lui enviraient-ils pas ce privilège ? Pourquoi, dans une cruelle circonstance, ne lui rendraient-ils pas plus qu'ils l'ont reçu ? Ah, permettez que je me dévoue pour notre malheureuse famille, que j'assure à ceux qui ne sont plus là la paix des tombeaux et aux autres la félicité sur cette terre. » Cette lutte généreuse entre le père et la fille continua encore quelque temps. Cependant, la cloche de la chapelle retentit de son prolongé. Plusieurs personnes entrèrent pour dire au comte Guidi que le jeune Alberto, plongé dans un horrible délire, avait voulu se donner la mort. Cette nouvelle augmenta encore la résolution de sauver son fils. Mais tandis qu'il se dispose à consommer l'acte sacrilège, Annunziato s'avance vers le portrait de la comtesse Ottavia et lui demande la formule du pacte qu'elle doit prononcer. Des rires sataniques se font entendre. Un ouragan impétueux ébranle dans ses fondements le château des Guidi. Tous les assistants voient distinctement se dessiner sur les murailles l'ombre d'un corps colossal. Il déploie de vastes ailes. Son front est armé de cornes aiguës et sa queue, terminée par un triple dard, s'agite et se redresse. C'est Lucifer. Il attache sur sa proie un œil étincelant. La jeune fille, décidée à consommer son horrible sacrifice, ne tremble point devant la redoutable apparition. Elle va prononcer l'arrêt qui la condamne aux flammes éternelles. Elle est perdue. Mais, ô prodige, le portrait de la comtesse Ottavia resplendit soudain d'une lumière céleste. Il n'offre plus les traits d'une mortelle, mais ceux de la Mère de Dieu, de la Reine des Anges, environnée de toute sa cour. Elle sourit à la courageuse Annunziata et lui dit « Tu as soutenu la plus cruelle épreuve que puisse être imposée à l'humanité. La piété filiale a été au-delà de ce qu'on peut attendre sur la terre. Reçois-en la récompense. La malédiction des tiens est levée. Ton frère prolongera sa carrière et toi, tu jouiras du bonheur qui est dû à ton dévouement. » Ici se termine le manuscrit, d'où l'on a extrait cette anecdote. Des recherches faites en Italie et sur les lieux ont appris que, depuis cette dernière aventure, la famille des Guidi a prospéré jusqu'à nos jours.